Boker Tov, aujourd'hui, un sujet assez particulier puisque nous allons parler de conversion, de Guérout. Alors, nous allons voir la question qui nous a été adressée. La question est la suivante. Mon fils désire se marier avec une jeune fille qui a réalisé une procédure de conversion à l'étranger. Il est d'accord pour que nous fassions des vérifications afin d'établir si la jeune fille est réellement juive de manière conforme à la halakha. Alors nous demandons quels points précis devons-nous vérifier. La réponse est la suivante. Nos maîtres enseignent dans la Gemara Masechet Yevamot, Daf Mem Vav Amud Aleph. Je cite. Lorsque quelqu'un désire se convertir, il n'est considéré comme converti que lorsqu'il aura été circoncis et lorsqu'il se sera immergé dans un mikvé. C'est en effet l'attitude qu'ont adopté nos ancêtres, lorsqu'ils sortirent du cadre de Bene Noach, des enfants de Noach, terme qui désigne l'ensemble des nations, et qu'ils se sanctifièrent par la sainteté des mitzvot en recevant la Torah lors de Matan Torah sur le Har Sinai et en recevant la Shekhina, la présence divine, ils se sont alors circoncis et se sont immergés. La conversion d'une femme se fait par l'immersion dans un mikvé. Dans tous les cas, une conversion ne peut se faire qu'en présence de trois dayanim, trois juges rabbiniques aptes, qui sont constitués en un bet din, car il est dit dans la Torah, Bamidbar et Perek Tetvav, chapitre 15, ce sera une loi, un jugement unique pour vous ainsi que pour l'étranger. Et il n'y a pas de jugement sans la présence de trois dayanim aptes à juger. Le déroulement de la conversion. Lorsque quelqu'un vient pour se convertir, on lui dit « Que vois-tu d'utile à te convertir? Ne sais-tu pas que le peuple d'Israël est persécuté et subit des souffrances de tout temps ?» S'il répond « Je le sais et je désire malgré tout m'unir au peuple d'Israël », on l'accepte immédiatement et on lui enseigne les fondements de la religion qui sont le commandement de l'unicité divine et l'interdit de Avodah Zarah, de l'idolâtrie. On lui enseigne aussi quelques mitzvot dites légères, mitzvot kalot. Alors c'est quoi des mitzvot kalot, mitzvot légères? Ça peut être des mitzvot dont la récompense pour leur accomplissement et le châtiment pour leur négligence sont moins importants que pour d'autres mitzvot. Et ça peut être aussi des mitzvot qui s'accomplissent facilement. On lui enseigne aussi quelques mitzvot rigoureuses, dites mitzvot rigoureuses, c'est-à-dire des mitzvot hamurot, qui sont généralement des mitzvot dont la récompense est importante et le châtiment sévère. On l'informe de quelques châtiments pour la transgression de certains commandements en lui disant « Avant d'en arriver à une telle décision, c'est-à-dire de venir rejoindre le peuple d'Israël dans ta conversion, lorsque tu consommais des graisses interdites de l'animal, ce qu'on appelle chélev, tu ne te rendais pas pour autant condamnable à la sentence de karet, qui est le retranchement de ce monde-ci et du monde futur. Lorsque tu profanais le Shabbat, tu ne te rendais pas pour autant condamnable à la lapidation. Mais à présent, si tu consommes de la graisse interdite d'un animal, ou bien, et tu seras condamné à karet. Si tu commets une profanation du Shabbat, tu seras condamné à la lapidation. De même, on informe de la récompense au mitzvot et on lui fait savoir que c'est par l'accomplissement de ces mitzvot que l'on mérite la vie dans le Olam Abba, dans le monde futur. On lui dit aussi que le Olam Abba, le monde futur, n'est réservé qu'aux tzaddikim qui sont du peuple d'Israël. Nous lui disons aussi, si tu as constaté que le peuple d'Israël souffre lui aussi dans ce monde-ci, sache que c'est une bonté pour eux, car ils ne peuvent recevoir une grande quantité de biens dans ce monde-ci comme les nations, par crainte que leur cœur se remplisse d'orgueil et qu'ils s'égarent et perdent ainsi leur récompense dans le Olam Abba, dans le monde futur. Mais Hachem ne leur inflige pas non plus une trop grande quantité de malheurs afin de ne pas les faire disparaître, puisque toutes les nations finissent par disparaître et le peuple d'Israël reste pour l'éternité. On prolonge la conversation avec lui dans des propos similaires à cela. S'il s'engage à accomplir la Torah, on l'accepte immédiatement, on le circoncit, puis on attend qu'il guérisse totalement. Et ensuite, on lui fait pratiquer une immersion valable sans le moindre élément séparateur, c'est-à-dire sans hatsitsa, entre son corps et l'eau. L'engagement dans les mitzvot est plus long que ce qu'il est décrit ici, mais nous ne pouvons bien sûr pas nous étendre davantage sur le sujet. Lorsque quelqu'un désire se convertir, nous vérifions si son désir n'est pas motivé par des raisons matérielles ou par une recherche de pouvoir ou de position sociale, ou encore si son désir de conversion n'est pas motivé par la peur, c'est-à-dire le châtiment que les nations recevront pour avoir fait souffrir le peuple d'Israël. S'il s'agit d'un homme, nous vérifions si sa conversion n'est pas motivée par un désir d'épouser une juive précise. S'il s'agit d'une femme, nous vérifions si sa conversion n'est pas motivée par son désir d'épouser un juif précis. Ce n'est que lorsqu'aucune raison externe à la conversion on a été trouvé, et seulement lorsqu'il est certain que leur démarche de conversion n'est motivée que par la émouna, par la foi et la volonté d'accomplir les commandements de la Torah par amour, qu'on accepte leur conversion. Alors que faut-il vérifier sur une personne convertie ? À partir de là, nous en venons à la question qui nous est posée. Il faut avant tout vérifier où s'est passée la conversion. A-t-elle été réalisée par un Bet Din, un tribunal rabbinique orthodoxe ? Car s'il s'agit d'une conversion réformée du mouvement juif dit libéral, elle est nulle et non avenue. Les dayanim, les juges rabbiniques qui ont siégé lors de la conversion, étaient-ils aptes à cela ? Y avait-il un Talmid Hacham, un érudit dans la Torah responsable de la procédure ? Y a-t-il eu un engagement dans l'accomplissement des mitzvot de la part du ou de la candidate à la conversion ? Si oui, cet engagement était-il sincère ou n'était-ce que de simples paroles qui, si c'était le cas, n'ont absolument pas la moindre valeur ? Par exemple, une personne se présente en disant qu'elle veut se convertir, mais avant cela, elle a exprimé devant des tierces personnes qu'elle n'a en réalité aucune intention d'accomplir les mitzvot. Puis, après la conversion, cette personne poursuit immédiatement ses actes en profanant le Shabbat et en commettant d'autres interdictions. Une telle conversion n'a aucun poids ni aucune valeur halakhique, comme stipulé dans Shout Yabia Omer, Helek Yudalef, Helek Yoredea, Siman Chafhet, Yabia Omer volume 11, section Yoredea, chapitre 28. Vous devez donc clarifier par vous-même les détails que nous avons cités. Et si un doute apparaît, ou bien que le Bet Din ayant réalisé la conversion n'est pas connu, il faudra dans ce cas consulter un Bet Din en Israël réputé qui vérifiera la sincérité des choses et tranchera conformément à la halakha. Un fait réel maintenant. Nous nous souvenons d'un fait remontant à une quinzaine d'années au sujet d'une femme dont la mère s'était convertie au Maroc. Ensuite, cette mère eut une fille. Lorsqu'ils quittèrent le Maroc par la suite pour s'installer en France, les membres du Bet Din Ashkenaz de Paris ont soupçonné que la conversion au Maroc n'avait peut-être pas été réalisée selon la halakha, et ils ont donc décidé, dans le doute, de procéder à une nouvelle conversion de la mère, mais cette fois-ci également de la fille. Environ une vingtaine d'années plus tard, la fille grandit et connut un jeune homme qui était Kohen. Or, il est de notoriété que selon la halakha, un Kohen ne peut pas épouser une femme convertie. Mais il peut épouser une fille qui ne s'est pas convertie elle-même et qui est née de parents convertis, car cette fille n'est pas considérée comme convertie et un Kohen peut l'épouser. Cette jeune fille s'est donc présentée devant le grand rabbin de France de l'époque, le Gaon Rabbi Yosef Haim Tzitrug, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, en réclamant le droit d'épouser un Kohen puisqu'elle n'était que fille de convertie, car sa mère s'était initialement convertie au Maroc avant sa naissance. Mais le Rav Tzitrug eut la crainte que le Bet Din avait décelé effectivement un défaut dans la conversion réalisée au Maroc. Et c'est pourquoi le Bet Din de France avait réalisé une nouvelle conversion de la mère et de la fille. De ce fait, la fille est elle-même une convertie, et pas seulement la fille d'une convertie. Lorsque la fille constata que le Rav Tzitrug ne validait pas rapidement son mariage avec le jeune homme Cohen, elle fit savoir au Rav Tzitrug que s'il ne validait pas le mariage, elle irait trouver un « rabbin » entre guillemets du mouvement dit « libéral, réformé » qui célébrera le mariage. Le Rav Tzitrug soumit la question au Bet Din en Israël afin qu'il tranche sur la façon d'agir. Le Bet Din d'Israël se pencha sur la question et trancha qu'étant donné qu'aucun défaut dans les procédures de conversion du Maroc ne leur était connu, il ne fallait pas prendre en compte les craintes du Bet Din Ashkenaz français sur ce point et il fallait donc autoriser la jeune fille à épouser un Kohen. Mais le Rav Tzitrug, Zichron Livracha, qui possédait des sens aiguisés, demanda au Gaon Rabbi Yaakov Sasson Shalita, qui est le petit-fils de notre maître Maran Arav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Kadosh Livracha, et qui est également le directeur de notre site Halakha Yomit. Il lui demanda donc, Rav Tzitrug demanda à Rav Sasson de soumettre la question à son grand-père, à notre maître, le Rav Alav HaShalom, afin qu'il tranche la Halakha sur ce point. Ce jour-là, notre maître, le Rav Alav HaShalom, était assis sur son fauteuil, et le Rav Sasson lui soumit la question. Notre maître, le Rav Alav HaShalom, demanda immédiatement « Qui est le Rav qui dirigea le Bet Din au Maroc ?» Le Rav Sasson indiqua le nom du Rav. À ce moment, notre maître, le Rav Alav HaShalom, se redressa et dit à haute voix « Sache que ce Rav a le statut halakhique de renégat envers le Bet Din, car j'ai reçu à plusieurs reprises différents témoignages à son encontre au Beit Din, témoignages selon lesquels il convertissait de manière hâtive et par des procédés des plus gravissimes selon la halakha. C'est pourquoi, s'exclama notre maître le Rav Alav Shalom de façon catégorique, toutes les conversions de ce Rav ne sont absolument pas valides selon la halakha, car il est inapte à siéger en tant que Dayan. Tous ces actes sont donc nuls et il ne faut pas autoriser cette jeune fille à épouser un Kohen. Fin de citation. Le Rav Sasson fut très surpris car son grand-père, notre maître le Rav, était réputé pour sa force à autoriser, Kohad Hetera. Et ce n'est qu'à de rares occasions que nous l'avons vu se montrer aussi rigoureux à ce point. En particulier du fait que la décision d'un important Beit Din en Israël avait déjà été rendue sur cette question. Et cette décision autorisait la chose, comme nous l'avons cité. Le Rav Sasson présenta donc à notre maître le Rav Alav Shalom, donc à son grand-père, la décision de ce Beit Din. Mais notre maître le Rav Alav Shalom répondit « Lorsque j'étais encore chef du Beit Din suprême de Jérusalem, j'ai transmis une information à tous les Beit Din d'Israël selon laquelle ils doivent invalider toutes les conversions réalisées par ce Rav. Mais il semble qu'avec les années, cette décision fut oubliée. Par conséquent, dans la pratique, il ne faut pas autoriser. » Et nous ne devons pas prendre en considération les menaces de cette jeune fille qui déclare qu'elle irait se marier chez les réformés, chez les libéraux, car même avec des menaces, notre Torah ne se modifiera jamais, chas v'shalom. Fin de citation. Le Rav Sitruk reçut la réponse de notre maître, le Rav Alav Shalom, et agit en conséquence. Qu'Hachem nous donne le mérite de nous sanctifier par sa sainteté et d'être ainsi distingué et saint du fait de sa sainteté. Amen.